Et les midis, c'est reparti. Bienvenue si vous nous rejoignez. À 13h, je recevrai le réalisateur Jérôme Bonnel et la comédienne Louise Chevillotte. Mais tout de suite, place au point culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Rachida Dati, ministre de la Culture, et Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, ont présenté un plan concernant l'éducation au cinéma et à l'image le 25 novembre dernier. Alors, où en est ce dispositif et comment peut-on le repenser? C'est notre dossier du point culture du jour. Marie Dusselier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, chercheuse postdoctorale à Sorbonne Université en laboratoire, au laboratoire du GEMAS, et vous avez notamment écrit une thèse intitulée « L'éducation à l'image, à l'épreuve de sa transformation, une enquête ethnographique dans et avec une fabrique de l'éducation populaire ». Dans un premier temps, alors, il serait sans doute utile en fait de rappeler l'histoire de l'éducation au cinéma et à l'image, depuis quand ce dispositif existe et surtout quelle en a été l'impulsion initiale?
Peut-être déjà revenir un peu sur cette terminologie entre éducation à l'image, éducation au cinéma, c'est une forme un peu tautologique en fait de voir les choses, parce qu'en France, quand on parle d'éducation à l'image, généralement, il y a une hégémonie de l'éducation au cinéma qui est déjà présente. Et ça, justement, pour répondre à votre question, c'est vraiment dû à l'histoire en fait de l'institutionnalisation de l'éducation à l'image, qui, à partir des années 1980, a pénétré les murs de l'école à l'issue de plusieurs décennies d'expérimentation, notamment dans les réseaux d'éducation populaire catholique ou laïque. Et à ce moment-là, l'institutionnalisation de l'éducation à l'image fait vraiment une centration autour d'une éducation à l'image cinématographique avec une approche de l'ordre esthético-artistique de ce qu'on peut entendre du cinéma. Et à partir de cette conception, il y a un certain nombre de dispositifs, donc dits d'éducation à l'image, mais en réalité d'éducation artistique au cinéma, qui se développent, notamment le premier dispositif qui est collège et cinéma, qu'on peut rapporter à la fin des années 80, donc 1989, qui enclenche une série d'autres dispositifs d'éducation à l'image qui vont advenir jusqu'à quasiment tous les niveaux de la scolarité d'un élève, pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui ma classe au cinéma, qui est un peu le navire amiral de l'éducation à l'image à la française.
Quelle est pour vous la valeur ajoutée de cette éducation, justement ?
Eh bien, on a une spécificité française autour de l'éducation à l'image, hein, une forme d'exception culturelle dans cette alliance justement très forte d'une conception de l'image qui est centrée fortement sur le cinéma. Il est intéressant de revoir que sur quasiment chaque allocution ministérielle autour de l'éducation à l'image, on rappelle que le cinéma est né en France. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'empreinte culturelle française autour de cette forme d'éducation. Et donc c'est à la fois une force, parce qu'effectivement, il y a que la France qui permet à plus de 2 millions d'élèves chaque année de visionner des œuvres du cinéma, du patrimoine, etc. Et en même temps, c'est aussi une limite, puisque on est très très fort pour construire ce type d'approche de l'éducation à l'image. En revanche, on est moins bon, en tout cas plutôt sur la période contemporaine, pour penser d'autres formes d'éducation à l'image qui ne sont pas cinématographiques, et on est encore moins bon, et c'est surtout là-dessus que mes travaux se sont déployés, mais pour penser en fait une transversalité éducative autour de différentes images et différents rapports aux images.
Alors on va y venir, mais là justement, il y a quelques jours, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, ont annoncé un plan pour l'éducation au cinéma et à l'image. Est-ce que ça veut dire pour vous que ça avait été délaissé justement? Est-ce que ce plan vient combler des manques qui vous semblaient évidents?
Alors, des manques, pas forcément, mais plutôt une forme, effectivement, de relégation. C'est vrai que, en fait, depuis les attentats de Charlie Hebdo, donc sur 2015, il y a plutôt un volontarisme politique qui s'est tourné autour de l'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information, un peu moins du côté de l'éducation à l'image, comme on l'entend à la française, hein, donc avec cette centration autour du cinéma. Donc ça, c'est vrai, l'éducation à l'image dans les discours politiques est un petit peu moins présente que l'éducation aux médias et à l'info depuis quelques années. Et ce qui a peut-être contribué aussi à ce que des dispositifs tels que ma classe au cinéma, avec collège au cinéma, école au cinéma, lycéen, etc., soient un petit peu mis de côté, et qu'ils soient peut-être moins connus, moins saisis aussi, notamment par l'éducation nationale qui les porte.
Alors on peut lire dans ce plan plusieurs propositions, et par exemple le lancement d'un concours national de critique de cinéma. Alors est-ce que cette initiative ne permettrait pas d'aiguiser justement le regard critique, alors à la fois sur les enjeux d'un récit cinématographique, mais aussi sur les autres images produites par notre époque, comme celle des réseaux sociaux évidemment?
Eh bien, moi, j'ai lu le rapport et ce qu'on peut voir, c'est vraiment un paradigme éducatif et pédagogique, en fait, qui a très, très peu bougé par rapport au moment de l'institutionnalisation. Donc, on est plus de 30 ans en arrière, hein, avec un contexte notamment numérique qui était extrêmement différent du nôtre actuellement. Et pour autant, on constate quand même une idéologie pédagogique autour de l'éducation à l'image qui a très peu bougé, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très dichotomique entre ben, le cinéma qui serait la bonne image par excellence, la bonne pratique de l'image par excellence, et puis toutes les autres images, et là évidemment je pense aux pratiques technoculturelles, numériques, notamment des jeunes qui se sont considérablement développés ces dernières années et qui sont pas du tout mises en rapport pour avoir une sorte d'esprit critique, on va dire global, partagé entre ces différents rapports aux images, mais plutôt dans un quasiment en fait une relation de combat, de concurrence, où le cinéma viendrait quelque part éliminer toutes les scories qui seraient dues à ces pratiques intensives et délétères du numérique dans le parcours de vie des jeunes. Donc voilà, c'est vraiment à cet endroit-là, de l'ordre de la relation dichotomique, que ça ne bouge pas et qui, pour moi, ne permet pas un esprit critique véritablement global et surtout contemporain par rapport aux enjeux actuels.
Bah justement, vous parlez dans un article de la nécessité de penser donc aujourd'hui une éducation aux images plutôt qu'à l'image. Alors comment prendre en compte selon vous et étudier cette iconicité générale dont on parle là, du monde de l'image cinématographique aux autres images que produit notre société, mais sans pour autant perdre de vue évidemment la nécessité de l'éducation au cinéma en tant qu'objet artistique?
Eh bien, en fait, il y a un peu deux niveaux. C'est-à-dire que là, globalement, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas aujourd'hui en France d'éducation aux images. Moi, c'est ce que j'ai pu constater dans mes travaux de recherche récemment. Il y a énormément de praticiens, praticiennes de l'éducation à l'image, on va dire traditionnelle, sous sa définition institutionnelle, qui se remettent en question et qui voient bien que les écarts de consommation, de pratiques, de références culturelles avec les jeunes et a fortiori les adolescents qu'ils prennent en charge dans ces dispositifs, voilà, il y a quelque chose, une forte distance qui s'est instaurée et qui va un peu de mal en pis. Donc comment ils réagissent par rapport à ça? Eh bien, c'est un peu un élargissement, notamment du cercle de légitimité, par exemple des films de cinéma qui peuvent être proposés dans les dispositifs, ou aussi beaucoup d'articulations entre le voir, le faire, le montrer, enfin voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont de plus en plus prégnantes. Je pense notamment à d'autres formats qui sont un peu les héritiers du cinéma tel qu'on l'entend, mais autour des séries, où il y a énormément de dispositifs d'éducation à l'image autour des séries qui se met en place. Les jeux vidéo aussi prennent une place assez conséquente hein, dans les dispositifs d'éducation à l'image aujourd'hui. Donc il y a des choses qui se passent, notamment portées par les pôles régionaux d'éducation aux images du Centre national de la cinématographie en région. Après, moi je fais un peu une distinction entre ces efforts d'élargissement de légitimité culturelle autour de l'éducation aux images et une éducation aux images qui irait en fait jusqu'à intégrer les pratiques ordinaires des jeunes, à s'intéresser à ces pratiques, à les reconnaître et à les mettre au centre des pédagogies et des objectifs visés, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il y a vraiment distinguer éducation à l'image aux images et j'allais dire aussi distinguer éducation aux images et éducation aux images connectée aux pratiques ordinaires de la jeunesse. Donc c'est un peu trois niveaux différents du paysage éducatif qu'on a aujourd'hui.
Merci beaucoup Marie Dussolier.
Merci à vous, je vous remercie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, on a appris ce dimanche la disparition de l'éditrice Irène Lindon à l'âge de 76 ans.
Oui, discrète et peu connue du grand public, Irène Lindon était la fille de Jérôme Lindon, le fondateur des éditions de Minuit. Elle reprit la tête de cette maison à la mort de son père en 2001 et la dirigea durant 20 ans avec la même exigence et la même rigueur intellectuelle. Elle est ainsi parvenue au cours de sa carrière à continuer d'accompagner des grands noms de Minuit, tout en faisant naître de nouveaux comme Laurent Mauvignier, le prix Goncourt 2025. Ce dernier a déclaré dans les colonnes du journal Libération « Il y avait pour Irène l'idée qu'un auteur n'est pas un écrivain qui fait des coups, mais une personne qui s'éloigne du bruit et des modes pour cultiver son art, son souci de la forme, son questionnement sur l'art d'écrire. » Au moment de prendre sa retraite en 2021, Irène Lindon avait fait le choix de revendre les éditions de Minuit au groupe Madrigal, présidé par Antoine Gallimard.
Et pour finir, Sophie-Catherine, la Gaîté Lyrique à Paris ouvrira de nouveau ses portes en janvier.
Après plus d'un an de fermeture, l'établissement culturel parisien a publié hier un communiqué pour annoncer sa réouverture au public le 13 janvier prochain. La Gaîté Lyrique avait été en effet occupée par plus de 400 migrants mineurs de décembre 2024 jusqu'à leur expulsion en mars 2025. Une situation qui avait obligé la direction de l'établissement à cesser ses activités culturelles, malgré son soutien à l'égard du collectif des jeunes de Belleville à l'origine de cette occupation. Pour découvrir la nouvelle programmation de la Gaîté Lyrique, rendez-vous sur la page du Point Culture du jour.
Merci Sophie-Catherine et on se retrouve demain.
À demain.
À demain pour de nouvelles actualités culturelles.